Donc aujourd'hui, le titre du cours d'aujourd'hui, c'est Elyonuto chez Yehudi. Le fait qu'un juif est toujours supérieur. Écoutez bien, vous allez voir. Yadoua, c'est connu. Chez Haftara, Nikret, Achare, Kriat, Aparasha, Batora. Que la Haftara qu'on lit juste après la lecture de la Parasha, Doma, Betochna, le Parasha, Atma. Le sens et le contenu de la Haftara ressemblent toujours à la Parasha. C'est un principe. Dimyonze, ou Galou, Beyota, Beshabatzo. Alors, il y a certains Shabbats où, c'est plus difficile, où le lien est plus difficile à voir. Mais notre Shabbat, le Shabbat de Parasha Vaigash, on verra comment le lien qui est entre l'Aftara et la Parasha est flagrant. Pourquoi ? La Parasha Nitzachat Begishat Yehuda Yosef. Comment elle commence la Parasha ? La Parasha, elle démarre par l'approche de Yehuda vers Yosef. Yehuda s'approche à Yosef, il lui dit Vaigash Elav Yehuda. Yehuda, d'accord, s'est approché de Yosef. Ve'af Aftara, et l'Aftara de quoi elle parle ? Oseket Beyichudam Shemamlachot Yehuda Yosef. La Haftara nous parle également de l'unification des royautés de Yehuda et de Yosef, Bisman Agnula Shlema, lorsque Mashiach viendra. Donc là, on voit clairement le lien qu'il y a entre l'Aftara et la Parasha. C'est que dans les deux, on parle de Yehuda et Yosef. Et que apparemment, d'accord, donc dans la Parasha, on a dit que Yehuda s'est approché de Yosef, et dans l'Aftara, on nous parle de l'unification des royautés de Yehuda et Yosef. Oulam, cependant. Shemaïnim Bitvarim Beyeter Amkout. Lorsqu'on s'approfondit dans le concept plus profondément, Midbarer l'Ichora, on va découvrir a priori, chez Torna chez la Haftara, Soter et Torna chez la Parasha, deuxième paragraphe. On va se rendre compte que le sens de la Haftara va en contradiction avec le sens de la Parasha. Pourquoi ? Mais Parasha Vaigash, dans la Parasha Vaigash, que Yehuda nigash le Yosef, lorsque Yehuda s'approche de Yosef, Amatsav où la situation est. Chez Yosef ou Hachalit, qui est le patron, au début de notre paracha, quand Yehuda va s'approcher de Yosef pour lui dire, écoute, bon, parce que Binyamin est en prison. Qui est le patron à ce moment-là? C'est qui le patron?
Yosef.
C'est Yosef. D'accord? Ve Yehuda natun le maruto. Et donc, Yosef est le patron, et c'est Yehuda, d'accord? Yehuda Yehuda se trouve sous la charge de Yosef. C'est Yosef qui est le patron ici. Ve'ilu Haftara, alors que dans l'Haftara, c'est vrai que l'Haftara nous parle de l'unification de Yehuda et Yosef, mais qu'est-ce qu'elle nous dit quand on analyse l'Haftara? Mais ça y est, n'est-elle shlitato chez Yehuda et Yosef? Vous verrez la traduction de l'Haftara. Dans l'Haftara, on nous montre comment c'est Yehuda qui va dominer sur Yosef. Vous d'accord? Donc c'est le contraire. Quand Mashiach viendra, le patron sera Yehuda. C'est Yosef qui va se rabaisser devant Yehuda. Alors que dans la paracha cette semaine, qui était le patron en Égypte, c'est Yosef. Et Yehuda s'est rabaissé devant Yosef. Donc non seulement, bon c'est vrai que c'est à peu près le même concept, mais a priori c'est contradictoire.
Un c'était en exil et l'autre c'était...
Alors, on va voir. Mais attention, faut pas oublier que la Haftara doit toujours être du même sujet que la Parasha. On comprend? Donc il y a un problème. Donc, Avdi David, alors comment on retrouve ça dans la Haftara? Avdi David, là-bas dans la Haftara il dit la chose suivante, il dit Ve Avdi David Melech Aleem. Il dit là-bas, mon serviteur David, mon esclave David, sera roi sur eux. C'est dans l'Aftara de cette semaine. Avdi David, mon esclave, mon serviteur David. C'est qui David? Amelech HaMashiach. C'est le roi Mashiach. Ayotse me Yehuda, qui descend de qui? De Yehuda ou de Yosef?
Yehuda.
Ou Melech Aleem. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vous verrez dans l'Aftara. Il dit que Ve Avdi David Melech Aleem, mon esclave David, est roi sur eux. Les rabots à Yosef. C'est-à-dire qu'il est roi également sur Yosef. Veillez Nassilem Leola, mais c'est lui à jamais qui sera leur prince. Donc en d'autres termes, c'est lui qui va les dominer. Donc on se pose la question, comment ça se fait que d'un côté, c'est la Haftara de la Parasha, c'est-à-dire certainement c'est un rapport avec la Parasha, mais d'un autre côté, a priori, c'est un peu le contraire. Dans la Parasha, on nous dit que c'est Yosef le patron, alors que dans la Haftara, on comprend que c'est qui le patron, c'est Yehuda. Enfin, et là, on va essayer d'expliquer. Vous allez voir que derrière ce petit jeu de Yosef et Yehuda, en vérité, va se trouver toute l'histoire de notre peuple. Et que ça nous change beaucoup si c'est Yosef le patron ou Yehuda le patron. Dans les mots. Biuraïnial, explication du concept. A Amadazo Sheldvarim, c'est-à-dire le fait que, quand on est en exil, on a l'impression que Yosef est plus fort que Yehuda, Nir'ed Rak Biriyah Hitsonit. C'est seulement quand on regarde la chose extérieurement. Oulam, cependant, Behomek Advarim, lorsqu'on analyse les choses en profondeur, Gam be parachatenu, même dans notre paracha, Baal idebitouy, Elyonuto chez Yehuda et Yosef. Même dans notre paracha, on voit comment en vérité, Yehuda était plus fort que Yosef. Pourquoi? Attends, c'était Yosef le patron. N'oubliez pas la situation. Vous vous rappelez au début de la paracha, c'est Yosef qui a mis Binyamin en prison, et Yehuda qui s'est porté...
Garant,
caution personnelle, on aurait dit, d'accord. Il s'est porté caution personnelle, garant pour libérer Binyamin, d'accord, enfin pour Binyamin. Donc,
il monte au créneau,
il dit, je suis là, attention. Alors, c'est vrai que, quand on analyse la situation extérieurement, on dit, ben écoute, c'est le patron ici, celui qui donne les ordres, c'est Yosef, et Yehuda, avec toute la force qu'il va avoir, ben il va devoir demander à Yosef. Donc c'est Yosef le patron. Mais si on analyse profondément, d'accord, en nom de poil, effectivement, c'est vrai que, dans la réalité des choses, Aya Yosef a Michel Amener. C'est vrai que Yosef, c'était le vice-roi. Le troisième paragraphe. Ubil Adav, le Yarim Ishvet Yedo va être Raglo Bechol Eretz Mitzrayim. C'est vrai que Yosef était le vice-roi. C'est vrai que, hormis Yosef, ça veut dire que si ce n'était pas avec l'accord de Yosef, personne, comme le verset nous dit, personne levait...
Il avait tout pouvoir.
Personne levait ses mains et ses pieds dans toute la terre d'Égypte. C'est une expression pour dire que...
Il avait tout pouvoir.
Aval, mais... Gishato, Askifa chez Yehuda Klepav. Justement, quand on s'imagine, imaginez-vous quand on vous dit que Yosef avait tout le pouvoir. Ça veut dire, c'est quelqu'un, juste, ça veut dire, sans son accord, il n'y a rien qui se passe en Égypte. C'est lui le patron de l'Égypte. Vous savez, c'est comme on a l'habitude de dire que quand vous avez un président, voilà, comme Obama par exemple, et vous avez son secrétaire d'État, on dit qu'en général, le secrétaire d'État, il a plus de pouvoir que le président. Parce que le président, il y a beaucoup de choses qu'il ne voit pas. Il ne prend pas de temps pour ça. Alors que le secrétaire d'État, c'est lui qui voit tous les dossiers passer, il fait ce qu'il veut. Et personne ne dira rien du tout, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est Yosef. Parole, il écoute, je te délègue, tu t'occupes. D'accord? Moi, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit là, dans la paracha la semaine dernière? Il a dit, Rakakisek Dalmimeka. Il dit, juste le trône, mon trône, il sera plus haut que le tien, mais je te délègue tout. C'est-à-dire, Yosef, c'est le patron. Alors, c'est vrai que c'est le patron, mais quand on analyse que Yosef, avec toute la force qu'il a, Yehuda, il a l'effronterie de venir et de lui dire, de lui faire comprendre, d'accord, comme on dit au début de la paracha. On dit que Yehuda, il est venu, il a frappé du pied, il a fait comprendre à Yosef que je t'ai fait tomber toute la terre de Jésus, tu me délivres pas, Binyamin. Pour avoir un toupet comme ça, pour lui montrer que maintenant, ici, tu vas pas m'impressionner avec un petit vise-roi, là, tu vas pas m'impressionner. Ça veut dire qu'en vérité, qui est plus fort? Yehuda ou Yosef?
Apparemment, on dirait Yehuda.
Hein?
A priori, on dirait Yehuda.
Alors, c'est vrai que dans l'état actuel des choses, qui est plus fort? C'est Yosef. C'est vrai? C'est
Yosef. Vu de l'extérieur.
C'est vu de l'extérieur. Mais quand on prend la chose en profondeur et on voit que Yehuda, donc on va dire dans les mots,
il avait une assurance.
C'est qui fout zo chez Yehuda? Cette effronterie, d'accord? Et cette sûreté que Yehuda avait. Vous savez, des gens qui sont sûrs d'eux comme ça. Chez Loïd Rachem et Aouda, le fait que Yehuda n'a pas été impressionné du fait que chez Yosef ou Michel Améler, que Yosef c'est le vice-roi, que c'est lui qui prend toutes les décisions. Et que Yosef, c'est juste, il doit juste montrer Yehuda du doigt et Yehuda, on l'aurait mis à mort. C'est vrai, bah oui. Yosef, c'est le vice-roi, ça veut dire qu'il y a tout le monde qui le regarde, tous les gardes, il suffit qu'il dit bon, allez, c'est fini, il n'y a plus Yehuda.
Parce que concrètement, est-ce qu'il était capable de faire quelque chose?
Alors, attendez.
De mettre en danger.
D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vea Falpiken et pourtant. Matsa Benavcho Oz. Et pourtant. Yehuda a trouvé en lui la force. Parce que tout se joue en nous. Il a trouvé la force en lui. L'Ekiatsev Moulo. De se tenir devant lui. Ou le Daberito Cachotte.
Oui, parce que Yehuda ne lui savait pas. Je réponds ce que tu dis.
Et de lui parler, oui.
Yosef, il aurait jamais fait de mal à Yehuda, mais à ce moment-là,
Yehuda, il savait pas.
Il a pris le risque.
Yehuda, il est parti pour se battre.
Parce que concrètement, il avait un pouvoir de retourner la royauté de Yosef.
Oui, mais Yehuda, quand même, il savait pas.
Non, il avait le pouvoir.
Il savait pas, Yehuda.
Hein?
Il savait pas que
c'était Yosef. Tu savais ce qu'il raconte le Midrash?
Non, je sais. Mais même s'il savait pas que c'était ça.
Donc il a vraiment pris le risque de se mettre en danger.
Attendez, je vais vous dire.
Est-ce qu'il avait des possibilités?
Je vais vous dire ce qu'il raconte le Midrash.
Est-ce que Yosef avait des possibilités?
Écoutez, monsieur Daniel.
Quand il se monte contre la royauté, est-ce qu'il avait une possibilité?
Il est pris dans son... Oui, vous pouvez garder. Écoutez bien. Le Midrash, il raconte. Rashi ramène aussi une partie de ce Midrash. Quand Yehuda est venu, il a frappé du pied. Donc il a voulu impressionner Yosef.
Yosef a répondu.
D'accord? Yosef a répondu. Lui aussi, il a frappé du pied. Et Yehuda a vu que c'est à peu près le même effet que le sien. Et là, Yehuda a eu très peur, parce qu'il a dit, oulala, celui-là, il est de notre famille, celui-là, il y a un problème, là, c'est pas possible. Il était conscient de son pouvoir. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que nous, ce qui nous impressionne ici, c'est que Yehuda a eu la force, a eu le courage de parler durement de parler durement à Youssef, de pas avoir peur. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un témoignage que j'ai vu. L'Avdil, hein, bien sûr, l'Avdil, elle fait Avdalot. Il y a des officiers SS, Marchema. Bon, il y en a qui voulaient pas l'être, mais que dans les faits, ils l'ont été, parce que bon, c'était obligé. On va dire comme ça.
Et leurs parents.
Et il y a les officiers SS qui ont raconté, j'ai lu, ils ont raconté qu'une des choses les plus dures qu'ils avaient pendant la Shoah, encore plus dur que le fait que Dieu préserve qu'ils ont mis des juifs à mort, c'est quand les juifs, ils se levaient, ça veut dire, ils se levaient comme ça, ils leur regardaient droit dans les yeux, et ils leur disaient, vous ne me ferez rien du tout. Le même toupet que Yehuda ici, alors qu'en vérité, ils savaient très bien que, bien sûr, qu'ils vont les tuer. Et ça, c'est un moment très difficile pour eux. Parce qu'ils sentaient, à ce moment-là, ils sentaient la force du juif, comme, tu ne me feras rien du tout, quoi, ne crois pas que ça va bouger quelque chose. J'ai eu un témoignage, je disais que c'est une des choses les plus dures qu'ils avaient. Parce que Yehuda a fait à Yosef, l'Avdil, bien sûr. D'accord? Parce que bon, Yehuda, à ce moment-là, il voyait Yosef comme son ennemi. On est d'accord? D'accord? Il voyait Yosef comme son ennemi. Il savait pas que Yosef était son frère. Il voyait Yosef comme son ennemi. Et lui, il dit, je vais lui montrer quelle force on a les juifs.
Il voyait plus le danger.
D'ailleurs, c'est pour ça que le mot Yehudi, d'où il vient? Yehudi. Yehuda. Vient de Yehuda. Salat adderech l'ibné Israël. Le fait que Yehuda a été dur avec Yosef. Il lui a montré que personne n'a le contrôle, personne n'a le pouvoir sur moi. Venez, monsieur, maintenant, on a fini en 10 minutes. Restez. D'accord? Le fait qu'il lui a montré que personne n'aura le pouvoir sur moi. Salah et Adair ibn Israël, c'est ça ce qui a tracé le chemin pour les Bnei Israël. Sheyuchlou la redet acharkach le Mitzrayim, que les Juifs après pourront descendre par la suite en Égypte. Mibli sheyuk fufim lishvizat amitzrim, sans qu'on puisse dire que les Égyptiens vont les dominer. Ils vont peut-être avoir le contrôle sur eux. Vous comprenez? Quelqu'un, il peut avoir le contrôle sur vous.
Sur le
techniquement.
Corps,
techniquement. Mais jamais il pourra les dominer. Ve'ad Rabba, au contraire. Au contraire, ce qu'on nous raconte, c'est qu'au contraire, quand les Juifs étaient en Égypte, c'est là qu'ils sont devenus de plus en plus forts. Ve'na'asu l'am gadol ve'rav. De 70 personnes, ils sont sortis, combien? Ils sont sortis 600 000 hommes. De 20 à 60 ans.
3 millions. Hein?
Je sais pas si c'est 3 millions, enfin, à mon avis, il y a plus, mais bon.
La moyenne.
Oui, la moyenne, mais il faut prendre la moyenne de l'époque, monsieur Hulman. Parce qu'à l'époque, il y avait 6 enfants par fournée. Ah oui. Je sais pas. Le chiffre, bon, je sais que les historiens d'aujourd'hui, ils disent que c'est 3 millions. C'est les statistiques actuelles. On peut pas se sur le... À mon avis...
Et à mon avis, c'est minimum 3 millions.
Minimum 3 millions.
La lune, elle a tout vu. Elle me raconte.
Alors, ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un qui m'a dit ça. La lune, c'est
le soleil, alors.
Hein? Oui, le soleil aussi, là, tout.
Le soleil est ébloui.
Alors, écoutez bien. Donc, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a expliqué dans le deuxième paragraphe? On a expliqué que, en vérité, l'Aftara et la Parasha ne se contredisent pas. Pourquoi? Parce que l'Aftara nous dit que le roi David, Yehuda, donc, sera plus fort que Youssef, va régner sur Youssef. Et dans la paracha priori, on voit que Yehuda s'est prosterné à Youssef. On s'est dit, c'est pas une contradiction. Parce que même si Yehuda, il s'est prosterné à Youssef, parce que bon, là, il fallait bien commencer par la diplomatie, mais la chutzpah qu'il avait, l'effronterie qu'il avait à ce moment-là, quand il lui a dit, c'est moi le patron ici, j'ai peur de personne, quand il lui a dit, j'ai peur de personne ici, maintenant, vous me rendez Binyamin, cette effronterie-là, pour la voir, hein, ça veut dire qu'il montre qu'en vérité, Youssef, il lui dit, même si techniquement, c'est toi le vice-roi ici, mais tu me domines pas à moi. Et c'est ça ce qui a donné la force au peuple juif, que plus tard, lorsqu'ils étaient esclaves, d'accord? Ils avaient cette force-là de dire aux Égyptiens, même si techniquement et matériellement vous nous dominez, vous nous contrôlez, d'accord, mais vous n'allez jamais nous dominer. Mais Vekan Nishel et Tachéla. Et là, la question va se poser. Lama Niska comme Israël est au chez Yehuda. Velo Istapei Bekoro chez Yosef. C'est quoi ce petit jeu-là, Yosef, Yehuda? Pourquoi à un certain moment, tu me dis qu'il y a la force de Yosef, après il y a la force de Yehuda? Pourquoi directement le Ham Israël, Velo Istapei Bekoro chez Yosef? Pourquoi on ne peut pas se suffire de la force de Yosef? Pourquoi Yosef? Chez Gamoubno chez Yaakov, Yosef c'est pas un enfant de Yaakov. Là, quand on lit l'histoire, on a l'impression que Yosef c'est un ennemi. On est d'accord? C'est vrai. Quand on lit l'histoire ici, on a l'impression que Yosef c'est un ennemi, Yosef c'est les forces du mal, mais quand Toshéach va venir, Yehuda il sera plus fort que Yosef. Je comprends pas, mais Yosef c'est un enfant de Yaakov. Donc c'est un tzadik comme Yehuda. Alors c'est quoi ce petit jeu là? Yosef, Yehuda, Yosef il va gagner, après Yehuda il va gagner. On a du mal à comprendre. Où tu mets dès le départ Yehuda, où tu mets Yosef? C'est quoi ce jeu? D'accord? Et là seulement, Yosef et Yehuda, Meyadzgim, Shnei Ramot, Bishlitato, Shayyuda, Mitutaola. Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Ça c'est vraiment, c'est d'actualité. Vous allez voir comment c'est d'actualité. Yosef et Yehuda. Pourquoi on a besoin d'avoir le royaume de Yosef et le royaume de Yehuda? Alors qu'on aurait pu suffire d'un seul. Les deux sont les enfants de Yaakov. C'est que vont représenter, donc on va rejoindre un peu ce que Léo a dit tout à l'heure, Yehuda. D'accord, hein, c'est Yehuda, c'est ça, d'accord, bon. Alors, Yosef et Yehuda, Meyadgim Shnei Ramot, Yosef et Yehuda vont représenter, je crois qu'il s'est mal imprimé à la fin.
Deux courants.
D'accord. Deux niveaux. Bishlitato chez Yehuda et Mitzuta Olam, dans la manière comment le juif va maîtriser le monde, va maîtriser ce qui se passe dans le monde. On va commencer par Yosef. Yosef, Meyatseg et Hashlemut, Yosef va représenter la plénitude chez Elea Magia Yehudi, à laquelle le juif va arriver. Betor, Misgerot, Aolam, Veateva. Yosef va représenter la plénitude qu'un juif va arriver dans le cadre de la nature, tout en restant dans le cadre de la nature. Vead, jusqu'à, chez Gam Betor Hagalut, que même dans l'exil, où naissait les Mishneh Lamelech, il vient devenir le vice-roi. Ça veut dire que Yosef, ça représente quoi? D'accord? Yosef et Yehuda ont le même problème, les deux. C'est quoi le problème qu'ils ont? C'est que le monde risque de nous déranger pour la Torah et Mitzvot. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le monde? Le matériel risque de nous déranger, risque de déranger le spirituel, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est quoi la technique de Yosef? Yosef, il dit, ben dans ce cas-là, on va intégrer le matériel. On va essayer de servir Dieu dans le matériel. Et tellement il va s'intégrer dans le matériel qu'il va devenir vice-roi. On est d'accord? Ça, c'est Yosef. Leumato Yehuda, alors que Yehuda, mais Yasek et Elyonut Abbasid chez Yehudi à Kom et tout à l'heure Mateva. Yehuda ne va pas devenir vice-roi. Yehuda n'a pas pris de poste en Égypte. Yehuda, il va représenter le fait qu'en vérité, un juif, il est toujours supérieur par rapport au matériel. Et même si techniquement, ben, il est en France, ou il est en Iran, ou ce que vous voulez, d'accord? Mais, intérieurement, le juif spirituellement est beaucoup plus fort que ça. Ve'achebekohol shanot et trukeh medina, jusqu'à ce qu'on nous dise que le juif, s'il veut, il peut changer les lois du pays. Comme on l'a vu chez Yehuda. Yehuda a fait peur à Yosef et ça a marché, on est d'accord? Ça a marché, il a eu peur, Yosef. Enfin, je sais pas s'il a eu peur, mais en tout cas, Yosef, dans les faits, ce qu'on a vu, c'est qu'il a libéré Binyamin.
En fait, c'est deux niveaux.
D'accord? Ça veut dire comme ça.
Le 7 et le 8.
Ça veut dire que Yosef et Yehuda, si vous voulez, bon, le 7 et le 8, vont représenter deux niveaux différents sur la manière comme un juif va intégrer le monde. Yosef, il te dit, d'après moi, il faut intégrer le monde à 100%. Il faut prendre les meilleurs postes. Et c'est de là-bas qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Yehuda, il dit non, moi je prends pas de poste chez les goyim. Et pourtant, je vais leur montrer que c'est nous qui dictons les règles du jeu ici. C'est le spirituel qui règle les jeux au matériel, pas le contraire. Et pourquoi on nous dit que c'est Yehuda qui va gagner la guerre? Pour nous apprendre que, Kochosé chez Yehuda, cette force que Yehuda avait, a Elyonut chez Yehudi à Kol Gidrat Eva Vaolam, la supériorité du juif sur toutes les définitions de la nature et du monde, il y a vol et débitou shalem bigulam zid vachlema. Ça, c'est quelque chose qui va s'exprimer vraiment quand Pachar viendra. Ça, c'est une sutra que le rabbi a dit, pardon, en 1992. C'est la dernière année qu'on a pu entendre le rabbi. Et là-bas, dans cette sutra, le rabbi explique la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit que si on analyse bien, comme on a expliqué, c'est quoi Yosef, c'est quoi Yehuda. Yosef, ça veut dire qu'il faut que si tu veux avoir un impact sur le monde, d'accord? Voilà, par exemple, j'ai la mairie. La mairie, elle ne va pas me donner quelque chose. D'accord? Le gouvernement, elle ne va pas me donner quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il va dire Yosef? Yosef va dire, s'il va pas te le donner, ben, il faut que tu intègres le gouvernement et tu vas devenir toi le gouverneur.
Je rentre dans le système.
D'accord? Tu rentres dans le système. D'accord? Tu rentres dans le process. Voilà, ça c'est Yosef. Attendez, on va arriver à Yehuda, monsieur Luman. Il faut rentrer dans le système. Et c'est ce que les Juifs ont fait, a priori, pendant l'exil. Ils ont essayé de rentrer dans le process, d'accord? Dans le système. Et pour influencer de l'intérieur. Et ça a marché. Jusqu'à ce qu'on les a éjectés, mais ça a marché. Mais d'accord? Ça marche. Ça c'est Yosef. Yehuda il dit non. Yehuda il dit, d'après moi, un juif par définition, le spirituel, il est plus fort que le matériel. Donc un juif, il doit montrer que c'est lui qui dicte les règles du jeu, même si il n'est pas de l'intérieur. Bon. Alors vous allez me dire que c'est bien beau tout ça, et bon, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la Shoah, hein, les Avdil, mais dans la réalité,
ça reste théorique.
D'accord, ça reste théorique. Dans la réalité, tu maîtrises rien du tout.
Oui, c'est-à-dire, d'accord
dans la réalité, ça va rien rapporter. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit ici le rabbi, il dit que cette force de Yehuda, le fait que le juif en vérité est supérieur sur le monde, elle pourra s'exprimer vraiment seulement quand Machiav viendra. Là, quand Machiav viendra, on verra vraiment que le juif, spirituellement, sans entrer dans le matériel, il dépasse tout. La reine, c'est pour ça. A Mashiach Shehu Mizera Yehuda, c'est pour ça que le Mashiach qui descend de Yehuda, Yeshanet Metziut Haolam, il va changer l'existence du monde, la manière de voir les choses du monde, qui est chez Tzilrat Hashem. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il va dire on va intégrer le matériel, on va l'adapter. Non, il va dire on va changer le matériel va suivre le spirituel. Veyafar afilu atumat haolam, Mashiach, donc il descend de Yehuda, va transformer même les nations. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? L'ikro kulam beshem Hashem, que tout le monde se mettra à appeler le nom de Dieu. Le avdo shramechat, pour le servir, d'accord, d'une seule épaule. C'est une expression d'hébreu pour le servir tous ensemble. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que si on avait suivi la méthode Yosef, Yosef il aurait dit bon, bah, il faut intégrer les nations. Et petit à petit, on va essayer de faire passer une loi, de faire passer un truc. Yehuda, il dit, non, c'est pas comme ça qu'on marche. Il faut que de même, il faut qu'ils comprennent que maintenant, il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Et que c'est le spirituel le plus important. En exil, c'est théorique. C'est très difficile de le voir en exil. En exil, on peut pas le voir, parce qu'en exil, si tu veux vraiment avoir un impact, il faut être de l'intérieur. Sinon, tu peux faire le fort, etc. Peut-être qu'à l'intérieur, tu es fort. Peut-être que profondément, tu es fort, mais le résultat qui va, le résultat final, il sera pas... sera pas au niveau de Yehuda. Alors, qu'est-ce que Yehuda nous apprend en exil? Yehuda noten kor la croix du dit. Ça, c'est la conclusion. Yehuda, il donne la force à tout juif. Shegam bitkufat agalut, que même lorsqu'on se trouve en exil. Qu'a priori, en exil, comme on a dit, la force de Yehuda n'est pas visible. Kacher omdim bitkifut bichol yadut. Lorsqu'un juif est ferme, Yehuda, ça représente la fermeté. Lorsqu'un juif va être ferme en tout ce qui, pour tout ce qui concerne le judaïsme, Beofen chez Yehudi ou Baal Abayit al Metziut Haolam, d'une manière que le juif, il va montrer qu'il est maître sur ce qui se passe dans le monde, bien qu'on en exil. Il dit que d'après moi, je veux faire la mitzvah, je vais faire la mitzvah. Baal Abayit, c'est moi le patron ici. C'est pas moi le patron, d'accord, enfin après les juifs l'utilisaient dans le mal. Ça veut dire que c'est le spirituel qui est le patron du matériel. Et bien Mevim les Descartes, ça amène à ça. Que le monde va se mettre à aider le juif à faire ses mitzvot. Ça veut dire comme ça. C'est vrai que Mashiach n'est pas encore venu. Et que puisque Mashiach n'est pas venu, donc on voit pas encore clairement comment le spirituel domine le matériel. Mais on a quand même un preview. C'est quoi le preview? Lorsque le juif va montrer qu'il est ferme sur une mitzvah, mais vraiment, d'accord, ça veut dire qu'il va montrer que je ne bougerai pas, je ferai ce que j'ai envie de faire, et bien on va voir de nos yeux, et on le voit. On va voir de nos yeux comment le monde va se mettre à aider le juif à faire sa mitzvah. C'est un fait. Je suis sûr que chacun dans votre vie, vous devez avoir des exemples de gens ou de vous-même peut-être. Quand vous avez été ferme sur quelque chose, quand on est ferme, mais vraiment, en général, tout de suite ça tombe, tous les obstacles tombent. Mais Zoahana la Geoula, et en vérité, Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer à la Geoula. Chez Baït Kayem Begilou Yayout, dans laquelle, dans la Geoula, hein, va s'accomplir de manière dévoilée la promesse, chez Baftarat Parachatenu, qui est dans la Ftarat de notre Paracha, mais David Avdi Nassi Laem Leolam, que David, mon serviteur, mon esclave, sera un Nassi, sera un prophète, sera, pardon, donc, va les dominer. Ça veut dire comme ça. Bon, là, ils ont pas amené toute la Sicha, mais dans la Sicha, là-bas, le Rabbi explique que, Sicha qui est en 92, il a dit que plus on s'approchera de Mashiach, et plus on va voir comment les juifs, le spirituel domine le matériel. Et comment quand un juif veut faire une mitzvah, rien ne pourra l'en empêcher. Il fut un temps où quand le juif était en exil, il voulait faire des mitzvot et ils n'ont pas pu les faire. Ils ne pouvaient pas.
Ils se cachaient.
D'accord ? Ils étaient obligés de se cacher, etc. Ils ne pouvaient pas faire mitzvot. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se cacher pour faire une mitzvah. Aujourd'hui, non seulement qu'on peut faire une mitzvah, mais c'est la police qui va venir garder ta manifestation. Ça veut dire quoi ? Comment c'est possible? J'ai lu un article récemment sur le Betrabad en Inde. Vous savez, après ce qui s'est passé, je conclue avec ça, après ce qui s'est passé à Bombay. D'accord? Donc il y a un Betrabad en Inde, dans une autre ville en Inde, dans laquelle là-bas les services secrets, enfin je sais pas si ça existe, mais bon, ils se disent services secrets en Inde, ils ont reçu des informations que ce Betrabad était aussi une cible. C'était vers les faits de tirer des SMS. C'est une cible. Ils ont intercepté des SMS. SMS entre des présumés terroristes. Bon, alors, la réaction qu'ils auraient dû avoir normalement, ils auraient dû dire, écoutez, monsieur, fermez votre local, mais vous arrêtez d'accueillir du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus les voir pendant les fêtes de Tishri, et ils leur ont dit, on va s'occuper de vous, on va vous protéger. Alors, du coup, d'accord, il y a des centaines de policiers, qui sont pas autour du Betrabad, ça veut dire qu'ils sont dans les maisons à côté, ils ont acheté des maisons à côté, ça veut dire, ils ont dit que pour garder le Betrabad, il y a le même nombre de policiers que ce qu'il faut pour garder le président ou le premier ministre de l'Inde. Et Donc j'ai lu une interview dans le journal Kfar Chabad, le Shliach qui était là-bas, hein, il a dit que là vraiment on voit ce que le Rabbi il a dit, que plus on s'approche de Mashiach et plus on voit comment le spirituel domine sur le matériel. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire normalement? S'ils avaient réfléchi comme en Galou, qu'ils auraient dû dire? Monsieur, vous fermez dehors. C'est dangereux, d'accord? On va pas amener ici des centaines de policiers. D'accord? Principe de précaution, on ferme. Arrêtez d'accueillir du monde pour quelque temps, papa. Qu'est-ce qu'on voit? Ils ont montré comment ils vont garder le Beit Rabat de la même manière et peut-être même plus. Ils vont déployer encore plus de policiers qu'ils auraient besoin pour garder le Premier ministre de l'Inde. Et ça, c'est ce que le Rabbi dit. Que plus on s'approche de Mashiach, et plus on nous montre que si un juif, il est Yehuda, ça veut dire qu'il montre qu'il est ferme. Et que on va rester, on ne bougera pas d'ici. Amen. On n'est pas là pour partir.
Amen.
Si on montre qu'on est ferme, Akadosh Baruch Hu va nous montrer clairement de nos yeux en galoute comment le spirituel domine le matériel et que c'est le spirituel qui dicte les lois au matériel et pas le contraire. Ça veut dire que la période de Yosef est en train de se terminer. La galoute est en train de partir.
Amen.
À bon entendeur.
À bon entendeur, oui.